France Inter, Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9.
Un grand entretien ce matin à la veille de la commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. On appelle ça Kwibuka, souviens-toi, ces journées du souvenir qui sont réconciliatrices, qui veulent rouvrir des blessures parfois à peine cicatrisées. Dans un discours vidéo publié demain et dont des extraits ont été partagés par l'Élysée jeudi, Emmanuel Macron a reconnu que la France n'avait pas eu la volonté d'arrêter le génocide. Des propos sans précédent depuis 30 ans. Quel mot pour dire justement ce souvenir, ce passé? Comment commémorer cet épisode, ce moment d'histoire? Nous allons en parler ce matin avec Marion Lourd et trois invités, trois grandes figures, trois grandes voix qui ont alerté, raconté, témoigné du génocide des Tutsis. Annick Kaïtesi-Josan, vous êtes rescapée du génocide des Tutsis au Rwanda, auteur de « Même Dieu ne veut pas s'en mêler », c'était aux éditions du Seuil, et vous avez été l'une des premières à témoigner justement de ce qui s'était déroulé en 1994 dans votre pays. Jean Hatzfeld, ancien journaliste, grand reporter, écrivain, on vous doit notamment trois livres impressionnants, Dans le nu de la vie, Une saison de machette et Là où tout se tait aux éditions Gallimard, où vous avez recueilli la parole de rescapés du génocide, d'assassins et également de ceux qu'on appelle les justes. Des personnes qui ont sauvé des Tutsis pendant le génocide. Patrick de Saint-Exupéry, bonjour, vous êtes grand reporter, vous étiez grand reporter pour le Figaro au Rwanda en 1994, vous y étiez au moment du génocide, témoin de première ligne, cofondateur de la revue 21, et on vous doit plusieurs livres, notamment une BD qui vient de reparaître, La fantaisie des dieux, Rwanda 1994, c'est aux éditions Les Arènes. Je le disais avec de l'émotion et j'avais du mal à retrouver le fil de ma pensée. Kwibuka, souviens-toi, on est aujourd'hui le 6 avril 2024, qu'est-ce que cette date représente pour vous? On commémore le génocide le 7, mais le 6, que se passe-t-il?
Bonjour.
Bonjour.
Le 6 avril, moi j'ai 14 ans. J'habite à Butare, c'est au sud du Rwanda.
Oui.
La journée est tout à fait normale. Alors pour la petite histoire de ma famille, on avait une cousine qui s'appelait Christine, qui étudiait à Bukavu, c'est à l'autre frontière, à l'ancien Zaïre, qui était de passage dans la ville, et ma mère était sa marraine. Et ma mère lui dit, ne pars pas aujourd'hui, reste dormir à la maison pour qu'on te voie un peu plus longtemps. Mais ce soir-là, le président, l'avion qui ramène le président Abiarimana d'Arusha et
abattu un missile.
Par un missile, mais ça, nous, on ne le sait pas. Mais on se réveille le 7 au matin et il y a de la musique. Ils mettaient de la musique classique quand il y avait des troubles au Rwanda et de la musique classique. Tout est fermé, on ne sait pas ce qui se passe. Ma cousine, elle ne pourra pas quitter le pays. Elle va mourir chez nous. Mais ça, non, c'est vraiment le début des massacres, pas dans ma ville, ça reste plutôt calme, trouble, mais comme des périodes qu'on avait connues avant et qui vont mener jusqu'à...
Ce génocide qui va durer 100 jours, Saint-Ex, Patrick de Saint-Exupéry, c'est votre surnom, vous y étiez, et c'est vrai que vous n'étiez pas là le 6 avril 1994, vous êtes arrivé juste après. Est-ce que ce 6 avril 1994, c'est un déclencheur, c'est un facteur d'explication, cet avion du président rwandais abattu par un missile? On ne sait toujours pas d'ailleurs précisément qui l'a abattu, mais qui va déclencher donc le génocide.
C'est un déclencheur, c'est un signal, c'est vraiment le signal de départ, mais tout est prêt. C'est comme la mèche sur un baril d'explosif. L'explosif est là, tout est disposé, le dispositif est prêt. Donc c'est vraiment le déclencheur. Et c'est la construction d'un génocide, c'est-à-dire qu'un génocide se construit dans le temps. C'est une construction politique dans le temps avec l'intention annoncée d'exterminer toute une partie de la population. C'est vraiment le marqueur du génocide. À partir du 6 avril, on voit le dispositif se déployer. Et moi, lorsque j'arrive au Rwanda en mai 94, un mois après le début à peu près, qu'est-ce que je constate? je ne constate qu'une chose, c'est le silence.
Le silence.
C'est un pays qui est plongé dans le silence. On voit des morts, on voit des maisons brûlées, on n'entend rien. Le bruit des feuilles dans les arbres, c'est tout ce qu'on voit. Et le silence, pendant deux jours, je roule au milieu du silence, avec un petit groupe de journalistes. Et au bout de deux jours, nous tombons sur des survivants, des rescapés, qui sortent des marais de Nyamata. Et leurs récits sont un peu désarticulés. Vous êtes sur place, vous comprenez ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé. Vous le percevez, mais avec une intensité rare. Et en même temps, vous savez qu'à ce moment-là, les mots ne pourront pas raconter ce qui s'est produit.
Et pourtant, c'est votre métier. C'est l'une des questions que vous posez. Comment raconter? Puisque la marque du génocide, ça n'est pas la furie, c'est le silence, vous l'avez dit. Le témoignage rendu quasiment impossible parce que tous ou presque ont été tués, ont été tués, et on ne veut pas, on ne peut pas croire au récit des rares rescapés. Jean Hatzfeld, comment est-ce que vous avez réussi justement à vous, à prendre la parole, à discuter avec ceux qui avaient échappé au génocide, à la tuerie, pour les amener à raconter leurs histoires dans ce livre extraordinaire, Dans le nu de la vie?
C'est-à-dire que moi, j'y vais, donc, après le génocide, début juillet, j'arrive et je fais un petit peu comme tout le monde. Je suis un peu fasciné et attiré par ce grand mouvement de la communauté Hutu qui s'en va vers le Congo, qui attire les yeux, qui attire, c'est un mouvement. Et je m'aperçois en revenant que moi, comme beaucoup de gens, c'était une erreur collective, on est complètement passé à côté des rescapés. Et on est passé à côté des rescapés parce qu'ils se taisaient, comme le dit Patrick, et que ce silence, c'est un silence qui me disait quelque chose, parce que c'est un silence dont on a beaucoup parlé au lendemain de la Shoah. C'est-à-dire qu'au lendemain d'une guerre, les victimes tendent à parler, à revendiquer, à se plaindre, à réclamer, à... Au lendemain d'un génocide, elles tendent à s'effacer pour des raisons qui sont tout à fait passionnantes. Je le savais, ça. Je savais qu'il faudrait un jour laisser un peu de temps et un jour revenir, prendre le temps. Et à ce moment-là, il fallait apprendre à travailler différemment, c'est-à-dire ne plus être journaliste, apprendre à poser l'autre question, qui n'était plus celle de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez vécu, mais comment vous vivez maintenant, aujourd'hui, quand vous avez traversé cette expérience inouïe de la tuerie, de l'extermination. Et donc là, il faut beaucoup travailler en amont, parce que l'une des raisons du silence des rescapés, c'est qu'elles ont peur, les personnes ont peur de ne pas être crues, oui. De ne pas être comprises. En plus, il y a un autre problème qui, souvent, elles se souviennent mal. Elles ont été affaiblies, elles ont été
traumatisées,
et donc la mémoire est compliquée pour eux, pour elles. Et puis il y a aussi d'autres blocages qui peuvent être un petit peu des sentiments de gêne ou de honte, soit parce que, par exemple, on a arrêté de croire en Dieu. On est honteux de ça, ou parce qu'on n'a pas fait, on pense qu'on n'a pas fait le geste suffisant pour sauver son enfant. Ou parce que on a vécu dans des conditions honteuses, qui étaient d'être tout nu, plein de poux, et de manger à main crue, des maniocs crus. Donc il y a beaucoup de blocages, il y a beaucoup de silence. Et puis il y a aussi cette idée, alors là qui était assez difficile à comprendre, à admettre pour un journaliste, c'est qu'il n'avait plus intérêt à parler. Si vous voulez, une palestinienne de Gaza, elle a intérêt à parler. Elle a intérêt à dire le maximum de choses. Au lendemain d'un génocide, beaucoup de rescapés, dans un premier temps, les premières années qu'on suit, elles n'avaient plus intérêt. On les avait abandonnées. Elles n'avaient pas à nous faire ce cadeau, parce que c'est un cadeau extraordinaire. C'est beaucoup de générosité de parler, de témoigner. Ouais, quand c'est sûr. Trop tard.
Il va y avoir cette cérémonie de commémoration demain aux 800 000 personnes au moins qui ont été tuées dans ce génocide. Emmanuel Macron ne sera pas là, il va intervenir par vidéo, mais on connaît déjà le contenu de ses déclarations. Annick Kayitessi-Josan, le président de la République a dit « La France aurait pu arrêter le génocide avec ses alliés occidentaux et africains, mais elle n'en a pas eu la volonté ». Vous les recevez comment, ces paroles du président français?
Alors, je vais juste revenir un peu sur les rescapés qui ne parlent pas. On a parlé dès le début.
Tout de suite.
Tout de suite. Les premières personnes qu'on rencontrait, qu'on rencontrait, nous les rescapés, on nous disait, ils ont tué tout le monde. Voilà. Ils ont parlé tout de suite.
Mais ça s'est arrêté là.
Non, ça s'est pas arrêté là. Moi, je sais qu'en arrivant en France, j'ai témoigné. J'étais la première à témoigner aux premières commémorations en 95. Mais c'est vrai que j'étais la seule. On n'était pas très très nombreux à témoigner.
Parce qu'il y avait pas beaucoup de rescapés aussi.
Et parce qu'il y avait pas beaucoup de rescapés aussi, mais parce que aussi on ne nous écoute pas.
Qui ne vous écoute pas?
Juste, en fait,
Patrick de Saint-Exupéry.
La réalité, je pense, c'est que les rescapés, le récit des rescapés, sont notre mauvaise conscience. On n'a pas envie de les
celle
écouter.
De la
pas. Oui, bien sûr, ils sont notre mauvaise conscience. On n'a pas envie de les écouter, pas parce que ce qu'ils nous disent peut nous faire mal. Et on les entend, mais on ne les écoute pas. Et cette parole va mettre beaucoup, beaucoup de temps à percer, parce que d'abord, le rescapé va devoir apprivoiser son récit. Et c'est très compliqué, c'est très dur, c'est un effort immense. Et ensuite, il faut que, lorsqu'il parle, il y ait quelqu'un à l'écoute. Et lorsque les mots qui sont prononcés agitent une mauvaise conscience, pas parce que le rôle de la France au Rwanda est extrêmement important, ben c'est vrai que naturellement, vous avez tendance à prendre distance, et c'est ce qui s'est passé pendant 30 ans, malgré tous les témoignages de rescapés, parce qu'il y en a eu de nombreux tout du long, mais ils n'étaient pas entendus.
Et ce que dit Emmanuel Macron aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'on vous entend maintenant ?
Alors, ce que j'ai accompagné Emmanuel Macron lors de son voyage au Rwanda en mai 2021, je me suis notée là pour ne pas me tromper, il a dit « La France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda ». Et elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de vérité. La phrase de Macron, si on enlève avec ses
guillemets,
non, il dit la France aurait pu, mais avec avec ses partenaires occidentaux et africains.
Et africains.
Voilà, si on enlève ça, les partenaires, parce que la France, les hommes politiques français ont pris des décisions particulières au Rwanda, et ce n'est pas avec les partenaires. J'étais à la fin du génocide, j'ai perdu toute ma famille. On est rescapés, on était deux avec ma sœur. On a été évacués par une ONG suisse qui s'appelle Terre des Hommes. Et cette ONG, elle était escortée par l'armée française. Ils nous ont fait traverser toutes les barrières. Si la France avait voulu arrêter le génocide, oui, elle aurait pu. Elle aurait même pu faire, en fait, peut-être qu'il ne commence pas, de mon point de vue.
Patrick de Saint-Exupéry, il y a des partis civils qui disent même qu'il faudrait dire le mot de complicité. Vous êtes d'accord avec ça ?
Bien sûr, la question se pose. Depuis 30 ans, elle se pose de manière évidente lorsque l'on s'intéresse, lorsqu'on prend la peine de s'intéresser à ce dossier, à ce qui s'est passé il y a 30 ans. Ça fait 30 ans que la question se pose. Mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas forcément la première question. Je dirais que la première question, c'est plutôt une question de courage. Je veux dire par là, il y a une politique incontrôlée qui a été menée dans les années 90, du cœur de la République, à l'Élysée, par un petit groupe d'hommes qui ont pris des décisions hors de tout contrôle. On a le droit de se tromper. On peut se tromper. Ce qui est inadmissible, c'est de refuser de reconnaître que l'on s'est trompé. Et pour reconnaître que l'on s'est trompé, il faut du courage. C'est juste un peu de courage. Et si ces gens-là avaient le courage un jour de dire simplement « nous nous sommes trompés », ça serait un pas énorme. Mais ces gens-là se sont drapés dans le drapeau français, ils ont parlé pendant des années de l'honneur de la France. Ils disaient « je parle au nom de l'honneur de la France, je défends la France ». Mais non, ils enfonçaient la France, ils s'enfonçaient dans le déni, ils s'enfonçaient dans le mensonge. Qu'ils parlent aujourd'hui, qu'ils aient simplement ce geste de dire « nous nous sommes trompés ».
Jean Hatzfeld, qu'est-ce qui a changé en 30 ans profondément en France ? On a vu, malgré tout, les discours officiels complètement changer, un travail d'historien mené par Duclerc. Entre autres, il y a eu vos livres, vos témoignages, vos récits. Est-ce que on a plus conscience aujourd'hui de ce gouffre, de cet inavoué qu'a été le génocide des Tutsis au Rwanda ?
Bien sûr que tout a changé. Peut-être pas assez, mais moi je trouve que les déclarations de Macron hier, voire avant-hier, sont à la fois normal et assez banal, puisqu'on savait, et à la fois inouï.
Banal et inouï.
Oui, parce que banal, parce qu'on savait, là, que ça aurait été possible d'arrêter ce génocide. Vous savez, il suffisait de neutraliser Kigali avec quelques blindés et 2000 parachutistes, et il n'y avait pas de génocide.
Arrêter la radio des 1000 collines. Arrêter la radio. La radio d'Émile Colline, par exemple.
C'était la radio des génocidaires qui a appelé au meurtre.
Kigali, c'était assez simple. Les contingents d'armées étrangères savent faire ça. Et ils ne l'ont pas fait. Alors, je trouve ça assez banal de le dire, puisqu'on le savait. Et à la fois assez inouï, parce que évidemment qu'on passe maintenant un cap, c'est-à-dire celui de la culpabilité. Parce que dans le droit international, le crime de génocide induit une ingérence immédiate de tous les pays. Tout le monde est en devoir d'intervenir sur un génocide. Oui. Donc ne pas intervenir, c'est une autre responsabilité que de ne pas avoir su ou d'avoir fait des erreurs. On devait intervenir puisqu'il y avait génocide. C'est un devoir. On a failli à ce devoir et donc on est coupable de ne pas avoir respecté ce devoir international.
Le mot complicité,
oui,
il est juste.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on va, il faut encore un peu de travail d'historien pour travailler encore un peu les archives, pour mettre plus de mots sur certaines questions, etc. Mais je pense que dans les années qui vont venir, on va arriver à ce stade.
La commission Duclert avait décidé de mettre ce mot de côté. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard. Et elle insistait sur la responsabilité, non pas sur la culpabilité, et donc ça change beaucoup de choses. Mais comment est-ce que vous, Annick Kaïtsé-Josan, vous qualifiez ce qui s'est passé? Vous n'aimez pas le mot génocide. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce mot-là, qui pourtant est celui qui décrit ce qui s'est produit il y a maintenant 30 ans dans votre pays?
Le mot génocide, moi je l'ai découvert en arrivant en France. Je ne savais pas qu'on était en train de vivre un génocide. Je trouve que le mot génocide ne dit pas, par exemple, moi, quand ma mère a été tuée, on m'a fait nettoyer son sang. J'y ai passé. Le moment où les tueurs sont arrivés chez nous, où elle a été tuée, ça a peut-être duré un quart d'heure. J'ai passé une journée à nettoyer son sang. Ça, ce n'est pas contenu dans le mot génocide. Là, je suis désolée, je suis émue. Ça fait 30 ans que j'attends de trouver le corps de ma mère. Les tueurs savent, ils savent, il y a quelqu'un qui sait où elle est. Ils ont laissé son corps aux chiens. Le mot génocide ne dit pas ça. Donc j'aime pas ce mot-là parce qu'il réduit. On va dire le génocide rwandais, on va dire il y a eu 100 000 morts, mais ça ne dit pas le trou noir dans lequel ça nous a plongés. Je pleure parce que tous les mois d'avril, j'ai encore 14 ans, même si en fait j'en ai 44 en vrai. J'ai des enfants, j'ai un garçon qui est plus grand que moi pendant le génocide. J'ai une fille qui a 12 ans, dans 2 ans, elle a le même âge. Donc ça va, oui. Mais tout c'est le mois d'avril, j'ai de nouveau 14 ans. Et ce mot-là, je ne le supporte pas parce qu'il va trop vite, parce qu'il est banalisé. Parce que justement, là on tourne autour, on dit oui, l'histoire va nous dire, mais l'histoire va nous dire quand, en fait? Parce que 30 ans avec cette peine, c'est immense. Je peux rester avec 70 ans s'il faut, parce que c'est les miens. Et ce qui leur est arrivé,
oui,
n'aurait pas dû leur arriver.
Oui, il n'aurait pas dû leur arriver. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui, Patrick de Saint-Exupéry, Jean Hatzfeld notamment.
Rien ne peut préparer un génocide, rien ne peut dire ce qu'a été un génocide. On peut en saisir les contours, mais comme disait Annick, on ne peut pas pénétrer ce trou noir, parce que ce trou noir, c'est du silence, c'est de l'absence, répété jour après jour. Et la confrontation avec un génocide...
Là où tout se tait, pour reprendre le titre du livre de Jean Hatzfeld.
La confrontation avec un génocide est quelque chose d'extrêmement particulier. Moi, je me souviens des soldats français de l'opération turquoise, découvrant la réalité de ce qui s'est passé, et découvrant que les ordres qu'ils avaient reçus de Paris étaient à l'opposé de la réalité qu'ils constataient. Et le fracas que ça a produit...
On leur avait parlé d'une guerre... Pas d'un génocide.
On leur avait dit, les Tutsis sont les assassins, les Hutus sont les victimes. Et sur place, ils vont découvrir l'exact contraire. La hiérarchie leur a menti. Et plus tard, ils vont réaliser que l'armée française, enfin, les politiques ont utilisé l'armée française pour laver plus blanc que blanc, pour essayer d'effacer cette page noire de l'histoire de France. Et ce cynisme-là, il en est toujours question aujourd'hui, il est toujours, il pèse encore sur ce dossier. Il est probant, il est épais, il est réel. Et lorsque j'entends Annick, moi je replonge dans toute cette période, et tellement d'images surgissent, et les mots d'Annick, l'absence de mots, disent toutes ces images qui sont absentes.
Et ces chiffres, 800 000 morts en 100 jours, à coups de machette, une saison de machette, aviez-vous écrit Jean Hatzfeld, et des meurtres qui étaient peut-être deux fois plus importants que ce qui pouvait se passer à Treblinka à certains moments. C'est sidérant, et vous qui avez grandi à Chambon-sur-Lignon, ville des justes, parmi les justes, c'est étonnant de voir la coïncidence que vous faites entre ces deux épisodes très séparés de l'histoire humaine.
Je pense que jamais dans l'histoire humaine, on l'a tué avec une telle efficacité. C'est-à-dire que même à la période la plus efficace de la machine nazie, qui est entre octobre et décembre 1942, en trois mois, ils n'ont pas tué 900 000 juifs. Là, ça a été 900 000 personnes tuées sans moyens techniques et technologiques dont disposaient, par exemple, la Wehrmacht, l'appareil nazi, etc., c'est-à-dire les trains, les gaz, etc. C'était tué principalement avec des lames. 80% des gens ont été tués par des lames. C'est quelque chose d'inouï. Et ça suppose quelque chose qu'on connaît bien, c'est l'adhésion populaire qu'il y a eu derrière ce génocide. Parce qu'il faut pas, oui, c'est difficile de mettre des mots, etc. Tout ne dira pas tout, comme dit Annick, ça. Mais on peut quand même dire qu'il y a eu, à un moment donné, une forme de basculement populaire vers une barbarie qui est assez inouïe et qui est toujours sans réponse.
Annick, quel peut être l'avenir ? À quoi peut ressembler l'avenir du Rwanda, la réconciliation, cette situation ahurissante où les victimes, les rescapés sont revenus habiter juste à côté de leur bourreau, juste après le génocide en 1994. Cette réconciliation d'un peuple rwandais, est-ce que c'est quelque chose qui vous semble imaginable ?
Alors, l'avenir, ça fait 30 ans que le Rwanda se reconstruit. Le fait que les bourreaux habitent à côté de leurs victimes, en fait, c'est pas une nouveauté. On a toujours habité ensemble. Le Rwanda, pour ceux qui connaissent, c'est plutôt assez petit et densément peuplé.
C'est tout petit et très dense, oui.
Et donc, oui, les personnes vivent côte à côte. Dans ma ville natale, ils viennent de découvrir un charnier il y a quelques mois, sous la maison de quelqu'un qui a construit par-dessus un charnier. Au début, j'ai même cru qu'il y avait peut-être ma mère parce qu'on m'a dit c'est derrière l'école où elle était tuée. Après, c'était un peu plus loin. Bon, finalement, c'est à quelques kilomètres. Donc, elle n'est pas là, mais il y a d'autres mères dedans. Je vais aller à leur enterrement le 30 avril. Et sous cette maison, ils ont découvert 1108 corps, 30 ans après. Les gens savent. Ces personnes qui ont construit savaient qu'ils construisaient sur un charnier. Ceux qui ont construit la maison, ils ont bien vu qu'il y avait des corps. Mais ils ont couvert dessus. Donc oui, le Rwanda se construit. La misée sur les jeunes générations. Et nous, les rescapés notamment. Moi, je suis loin, c'est vrai, j'ai de la peine, mais je suis loin. Mais ceux qui sont au Rwanda, ils payent le prix de vivre avec leur souffrance en attendant que les générations futures grandissent.
Et les 30e cérémonies donc auront lieu demain. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été les invités de France Inter ce matin. Annick Caïtessi, Josan, Patrick Saint-Exupéry, Jean Hatzfeld, merci infiniment.